Je place l'Artois sous ma main.
Le lendemain, Philippe de Poitiers fit visite à sa belle-mère afin de lui annoncer son proche départ. Mao d'Artois résidait alors en son château neuf de Conflans, ainsi nommé parce que situé exactement au confluent de la Seine et de la Marne à Charenton. Les aménagements et la décoration n'en étaient pas terminés. Béatrice d'Hirson assistait à l'entretien. Lorsque le comte de Poitiers raconta l'interrogatoire du Templier, la même pensée vint aux deux femmes. Elles échangèrent un bref regard. Le personnage employé par le cardinal Caetani offrait de bien frappantes similitudes avec le faux fabricant de cierge qui les avait aidés 2 ans plus tôt à empoisonner Guillaume de Nogaret. Et il serait bien étonnant qu'il y eût 2 anciens templiers du même nom, et tous 2 versés en sorcellerie. La mort de Nogaret lui était une bonne introduction auprès du neveu de Boniface. Il est allé se faire payer de ce côté-là. Oh, méchante affaire, se disait Mao. « Comment s'est-il présenté, cet Évrard, pour la figure ?» demanda-t-elle à Philippe. « Maigre, noir, l'air un peu fou et un pied boiteux. » Mao observait Béatrice. Celle-ci fit un signe affirmatif avec les paupières. La comtesse d'Artois sentit le malheur la saisir aux épaules. On allait certainement questionner davantage Évrard, avec de bons instruments à explorer la mémoire. Et si jamais il parlait ? Non qu'on regretta beaucoup Nogaret dans l'entourage de Louis X, mais on serait trop content de se servir de ce meurtre pour lui intenter procès à elle. Quel parti Robert en saurait tirer? Or, il y avait tout à craindre qu'Évrard parlât, si même ce n'était pas déjà fait. Mao échafaudait des plans. Faire oxyre un prisonnier dans le fond d'une prison royale n'est pas chose aisée. Qui va m'aider là-dedans? S'il en est encore temps. Philippe, il n'y a que Philippe, il faut que je lui avoue. Mais comment va-t-il prendre cela? Qu'il refuse de me soutenir, et c'est ma fin. L'a-t-on tourmenté? Demanda-t-elle. Béatrice, elle aussi, avait la gorge sèche. On n'a pas eu le temps, répondit Poitiers, qui s'était baissé pour remettre en place sa boucle de soulier. Mais Dieu soit loué, pensa Mao, rien n'est perdu. Allons, jetons-nous à l'eau. Mon fils, dit-elle. Mais c'est un grand dommage, continua Poitiers, toujours penché, car maintenant nous ne saurons rien de plus. Évrard s'est pendu cette nuit dans sa geôle du petit Châtelet. La peur sans doute d'être de nouveau mis à la gêne. Il entendit 2 profonds soupirs. Il se releva, un peu surpris que les 2 femmes marquassent tant de compassion pour le sort d'un inconnu et de si basse espèce. Vous alliez me dire quelque chose, ma mère? Je vous ai interrompu. Mao instinctivement touchait à travers sa robe la relique qu'elle portait sur la poitrine. Je voulais vous dire. Que voulais-je vous dire, au fait? Ah oui, je voulais vous parler de ma fille Jeanne. Voyons, l'emmenez-vous en votre voyage. Elle avait retrouvé ses esprits et son ton naturel. Mais, Seigneur, quelle alerte! Non, ma mère, son état me paraît l'interdire, répondit Philippe. Et moi aussi, je souhaite vous entretenir d'elle. Elle est à 3 mois d'accoucher. Et il serait imprudent de l'aventurer sur de mauvaises routes. J'aurais fort à me déplacer. Béatrice d'Hirson, pendant ce temps, voguait dans le monde des souvenirs. Elle revoyait l'arrière-boutique de la rue des Bourdonnais. Elle respirait le parfum de cire, de suif et de chandelle. Elle se rappelait le contact des dures mains d'Évrard sur sa peau, et cette impression étrange qu'elle avait eue de s'unir au diable. Et voilà que le diable s'était pendu.